Bonsoir, comment allez-vous? Oh, je me demande si elle n'est pas un peu courte, ma jupe. Je vais mettre des gros collants. Si on danse, je vais crever de chaud. Non, je vais mettre des collants fins et des souliers plats, ça fera moins court. Mais quoi comme souliers? Ou alors je mets la jupe rouille, mais alors là, pour le coup, elle est carrément longue. Et puis avec tout ce tissu, il me faudrait un top moulant pour pas faire abat-jour. Mais quoi comme top? Le noir, c'est chic, mais c'est un peu triste. Le gris, c'est chic aussi, mais il est au sale. Le blanc, ça tranche trop. Le jaune, ça fait drapeau brésilien. Ou alors je repêche le gris, il n'est pas si sale. Oh non, il est tout chiffonné. Maintenant, je peux le repasser. Si je sors la planche, alors autant repasser ma petite robe noire, c'est une valeur sûre. Oh, mais elle est courte aussi, j'ai grandi ou bien? Comment ça, j'ai grossi? Je vais la mettre. Et je mets quoi par-dessus? Un châle, comme ta sœur? Si, c'est joli, mais c'est que j'ai peur de le perdre. Non, je vais mettre ma petite veste avec le col rouge parce qu'elle est vraiment très jolie. Sauf qu'elle va pas avec la robe. Oh, j'ai plus envie d'y aller, moi. Ou alors je mets un pantalon, ça règle tout.
Bonjour, je m'appelle Zoya, je voudrais savoir depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France? Au revoir et merci de me répondre.
Bonsoir Zoya, nous avons proposé ta question à Denis Brunat, qui est historien des modes et des vêtements, qui vient d'écrire un très beau et très gros livre avec Chloé Demey, édité chez Textuel, Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge à nos jours.
En disant que le pantalon est un vêtement féminin à partir essentiellement des années 1960. C'est-à-dire quand les femmes ont pu porter le pantalon dans la rue d'une façon, je dirais, assez simple, sans soulever les soupçons, les regards inquisiteurs. Mais sinon, l'histoire du pantalon féminin est un petit peu plus ancienne, puisque celle-ci apparaît au cours du 19e siècle. Les femmes ont commencé à porter d'abord des pantalons de lingerie sous les robes, dans les années 1790-1800.
Donc c'était un dessous.
C'était d'abord un dessous, mais qui était en partie visible, hein, puisqu'on le voyait notamment sous les robes qui étaient longues, mais pas aussi longues que ça. Donc on voyait le pantalon de lingerie, si bien qu'il y a eu un décret qui a été promulgué par le préfet de police de Paris, le 7 novembre 1800. Le préfet est informé que beaucoup de femmes se travestissaient. C'est vraiment le mot, justement, du texte. Ouais, ouais. On parle vraiment d'un travestissement. Et qu'il voit que de plus en plus de femmes veulent porter des vêtements d'hommes, parce que le pantalon est vu comme étant un vêtement masculin. Donc, il promulgue un décret. Et si bien que si on est une femme à partir de ces années 1800 à Paris, et si l'on veut porter un pantalon, il faudra demander auprès de la préfecture de police, je cite, une permission ou un permis de travestissement. Il fallait donc déposer une demande avec un appui, avec
une raison
particulière, une raison de santé ou une raison professionnelle. Et notamment, il fallait appuyer son dossier de demande à l'appui d'un certificat médical. Et alors, il y a eu beaucoup de femmes très célèbres. Je pense par exemple à George Sand.
Oui.
George Sand qui a été obligé de renouveler, notamment tous les 6 mois, puisque c'était la règle, son permis de travestissement pour pouvoir porter un pantalon. D'ailleurs, elle explique dans ses mémoires que pour elle et pour ces autres femmes-là, particulièrement courageuses à cette époque, que pour elle, le pantalon lui permettait d'aller partout, dans les cafés, les salons littéraires, les théâtres.
Donc c'était une raison, pas médicale, mais professionnelle. Elle avait accès à des endroits...
Elle a réussi, je dirais, à faire passer par des lettres particulières à pouvoir avoir ce permis de travestissement. Mais sinon, la plupart des femmes devaient dire qu'elles faisaient un métier d'homme. C'est-à-dire que quand on pense qu'on est dans ces années 1830-1840, les femmes portaient une succession de jupons, notamment de jupes cages, les fameuses crinolines. Les jupes sont particulièrement amples. Les femmes portent des corsets pour serrer la taille. Par conséquent, il y a des métiers qui ne permettent pas d'être exercés avec des vêtements et des robes particulièrement encombrantes. Donc, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons professionnelles, soit parce qu'on est parvenu un petit peu à passer entre les mailles du filet de ce texte de loi, certaines femmes ont pu porter en effet un pantalon.
Alors, en tant que historien de la mode, Denis Brunat, finalement, le pantalon, pourquoi les femmes ne pouvaient pas le mettre? Parce que c'était indécent? Parce que leurs jambes étaient moulées? C'est quoi l'histoire de l'interdiction du pantalon pour les femmes ?
C'est le vêtement emblématique de l'autorité masculine. Et au cours de la longue histoire des vêtements occidentaux, les femmes ont emprunté beaucoup de choses aux hommes. La veste, la redingote, le chapeau. Le chapeau était exclusivement porté par les hommes jusqu'au XVIe siècle. Et nous avons retrouvé des textes, par exemple, à Paris, une femme qui portait un chapeau, puisque c'était l'emblème de l'autorité masculine, pouvait être arrêtée et payée sur le champ une amende, parce que c'était prendre l'autorité des hommes. Et le pantalon était de loin le vêtement le plus emblématique de l'autorité masculine. D'ailleurs, on dit qui porte la culotte, qui porte le pantalon. Quand on dit que c'est une femme qui porte la culotte à la maison, c'est pas toujours très bien vu, même aujourd'hui. C'est précisément la crainte des hommes de voir leur autorité leur filer entre les doigts et être désormais prise par les femmes. Elles prenaient l'autorité des hommes, et comme beaucoup de pièces vestimentaires, par exemple le talon. On oublie, mais le talon était exclusivement réservé aux hommes au XVIe siècle. Les femmes ont récupéré, ont emprunté le talon à la garde-robe masculine, et aujourd'hui c'est très difficile pour un homme de porter des talons.
Cette loi alors qui interdisait aux femmes de porter des pantalons, qu'est-elle devenue ?
La loi a été abrogée en janvier 2013. Ce qui n'a pas bien sûr empêché les femmes de porter des pantalons librement dans la rue depuis les années 1960. Mais il faut savoir qu'on a parfois oublié que les femmes avaient parfois un repris de justice dans leur placard, le pantalon bien sûr.
Voilà, Denis Brunat est donc professeur en histoire de la mode à l'école du Louvre. Ce soir, dans les petits bateaux, nous parlerons de ce clavier d'ordinateur dont les lettres ne sont pas dans le même ordre que dans l'alphabet. Nous parlerons avec Bernadette Bricout des contes de Perrault, et puis nous parlerons avec Jean-Marc Jancovici des voitures à essence.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des sphères à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend contrainte. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je vais me découvrir.
Vertige de l'amour, c'était Alain Bachung.
Les petits bateaux sur France Inter.
Jean-Marc Jancovici, ingénieur, enseignant, écrivain, a écrit « Le changement climatique expliqué à ma fille », édité au Seuil.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 8 ans, je voudrais savoir dans combien d'années sera la fin des voitures à essence.
Jean-Marc Jancovici.
Alors Raphaël, je ne sais pas te dire dans combien d'années exactement il y aura la fin des voitures à essence. Par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est que pendant toute ta vie, tu vas assister à de moins en moins de voitures à essence. Ou plus exactement, de moins en moins de voitures à pétrole. Alors pas tout de suite, ça va continuer à augmenter pendant encore quelques années ou quelques dizaines d'années. Mais derrière, ça va se mettre à baisser. Alors pourquoi ça? Parce que les voitures à essence fonctionnent avec du pétrole. En fait, quand on dit voiture à essence, il y a aussi voiture à diesel dedans. Hein. Et l'essence et le diesel, c'est des produits qu'on obtient grâce au pétrole. Et donc le début de l'histoire, c'est il faut aller chercher du pétrole sous terre, je le sors, je le fais passer dans une espèce de grand alambic qui s'appelle une raffinerie. Et derrière ce grand alambic, j'obtiens des produits pétroliers divers, dont du diesel et de l'essence qui font avancer les voitures. Le pétrole, pour le former, c'est là qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant, il faut de quelques dizaines de millions d'années à quelques centaines de millions d'années. Donc le début de l'histoire, c'est qu'il y a très très longtemps, dans les océans, il y avait des petites algues et du plancton, des petits animaux, dont une partie est morte. Cette petite partie morte, elle est tombée sur le fond des océans. Elle a été enfouie dans les profondeurs de la Terre par ce qu'on appelle la tectonique des plaques, le mouvement des plaques à la surface de la Terre. Sous terre, tout ça a chauffé et ça s'est progressivement transformé de résidus de vie en pétrole. Et puis ça a été stocké dans des roches poreuses qu'on appelle des réservoirs. Tout ça met des centaines de millions d'années à se produire. Et donc, à l'échelle d'une civilisation humaine, quand on parle de quelques siècles ou de quelques milliers d'années, on peut considérer que du pétrole, il ne s'en formera pas sous terre, donc on part avec le pétrole qui existe et puis il n'y en aura pas plus. Et si on part avec le pétrole qui existe, on ne peut pas extraire chaque année des entrailles de la Terre la même quantité de pétrole indéfiniment. À un moment, il va y en avoir de moins en moins. En fait, ce moment, il a déjà commencé depuis 2006, quand on regarde les réservoirs de pétrole sur Terre, l'essentiel des réservoirs produisent de moins en moins. Il y a deux endroits où ça continue à produire de plus en plus, mais l'essentiel produisent de moins en moins. Et donc, s'il sort de moins en moins de pétrole de terre, à un moment, ça va poser un problème pour faire rouler de plus en plus de voitures à pétrole, c'est-à-dire à essence et à diesel. Ce moment, il a déjà commencé à arriver en Europe. Il n'est pas très loin de commencer à arriver aux États-Unis. Et dans le monde, dans son ensemble, il va arriver dans les 5 à 15 ans qui viennent, ou 5 à 10 ans qui viennent, de façon irrémédiable, quelque part. Alors après, la bonne question, c'est, est-ce qu'on aura facilement autre chose que le pétrole pour faire avancer nos voitures? Mais là, si la question était, quand est-ce qu'on verra la fin du pétrole? La réponse, c'est, je ne sais pas le dire. Par contre, la fin d'un pétrole de plus en plus abondant, c'est imminent.
Voilà, Jean-Marc Jancovici a déjà répondu sur le volet écologique du problème à l'occasion d'une précédente question. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre en quelques minutes. C'est là d'ailleurs que réside la difficulté.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir si Charles Perrault a inventé les contes qu'il a écrits ou bien s'il s'est contenté de les retranscrire. Merci de me répondre, au revoir.
Merci Marie, c'est bien sûr à vous Bernadette Bricou que nous proposons cette question. Peut-être en deux mots pour ceux qui l'ignorent encore, qui est Charles Perrault?
Oui, alors Charles Perrault, c'est un écrivain du XVIIe siècle qui a laissé une œuvre considérable et notamment un petit recueil de contes, histoires ou contes du temps passé, grâce auquel il est passé à la postérité. Perrault a-t-il inventé les contes qu'il a écrits? Non, Marie. Il les a entendus, il les a recueillis, ou bien son fils Pierre d'Armancourt les a recueillis, mais on trouve dans les marges des manuscrits de Perrault des notes qui donnent des indications sur la manière dont on raconte. Par exemple, « Ô mère grand, comme vous avez de grandes dents, c'est pour te manger !» Et dans la marge, on prononce ces mots d'une voix forte, comme si le loup allait manger l'enfant. Ces contes sont beaucoup plus anciens que Perrault, ils sont inscrits dans la mémoire humaine, ils ont des siècles et parfois des millénaires d'existence. Mais quand tu dis « est-ce qu'il s'est contenté de les retranscrire ?» Non. D'abord parce que la retranscription même du texte oral, du texte qui a été recueilli, c'est déjà difficile à faire. Et en plus, Perrault est un écrivain. Et donc, en tant qu'écrivain, il va prendre la même liberté que les frères Grimm en Allemagne, ou qu'Italo Calvino en Italie, ou qu'Henri Pourra plus près de nous, ou qu'Henri Gougaud de nos jours, il va leur imprimer sa marque, sa couleur, sa chaleur, qui fait que la version de Perrault n'est comparable à aucune autre. Et en fait, il prend la même liberté que le conteur populaire. La trame était très ancienne, l'histoire est très ancienne, mais quand je lis Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, et que je trouve, par exemple, cette moralité en vers qui va mettre en garde les jeunes filles contre les loups doucereux, il est des loups doucereux qui suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Et Marie, toi qui as 12 ans, tu vas lire bientôt les auteurs classiques et tu verras que la ruelle au XVIIe siècle, c'est l'espace qui sépare le lit du mur. Donc quand le loup est dans la ruelle, le danger est très grand. Mais hélas, ajoute l'écrivain-conteur Charles Perrault, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Autrement dit, il y a des avertissements, par exemple chez Perrault, avec ses moralités en vers, et une couleur qui fait que quand je lis un conte de Perrault, il n'est comparable à nul autre. Et ça, tu vois, c'est le miracle du conte. C'est à la fois une histoire inscrite dans la mémoire longue de l'humanité, elle a été transmise de la bouche à l'oreille, de mère à fille, de père à fils, pendant des siècles, et en même temps, avec Perrault, elle devient une œuvre à part entière, car il fait œuvre d'écrivain, donc il ne se contente pas de retranscrire.
C'est toujours un bonheur d'entendre s'exprimer Bernadette Bricou, spécialiste de littérature orale. Ses élèves de l'Université Paris Diderot ont eu bien de la chance. Rosalia est une Catalane de 26 ans, Dimi Nombre. Le numéro de téléphone de notre répondeur, c'est le 01 56 40 43 57. Il est très patient, ce répondeur. Vous pouvez recommencer votre question autant de fois que vous le voulez. En revanche, il n'aime pas tellement les souffleurs.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 4 ans. Je voudrais savoir pourquoi sur le clavier... Il n'y a pas dans l'ordre les lettres de l'alphabet. Au revoir. Merci.
Michel Baudouin-Lafont, vous êtes professeur d'informatique, entre autres, à l'Université de Paris-Sud. Alors, le petit Antoine demande pourquoi sur le clavier, il n'y a pas dans l'ordre les lettres de l'alphabet.
Mais Antoine, tout d'abord, il y a des claviers qui ont les lettres dans l'ordre de l'alphabet. Et tes parents, ou peut-être plutôt tes grands-parents, se souviennent peut-être du Minitel. Les premiers Minitel avaient les lettres A, B, C, D. Mais l'histoire a voulu que, en fait, elle ne soit pas dans l'ordre. Alors ça remonte à l'invention des machines à écrire, qui datent de la fin du 19e siècle. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de dispositions de claviers différentes. Clavier de piano, clavier sur une boule, etc. Et la disposition qu'on utilise aujourd'hui, elle est due à un certain Christopher Latham Sholes, qui avait une entreprise de machines à écrire, et qui a créé un clavier avec quatre rangées. La première, les lettres, les chiffres en fait, de 1 à 9. Ensuite, les voyelles, dans l'ordre de l'alphabet. Ah. Et ensuite, les consonnes, également dans l'ordre de l'alphabet, sur deux rangées. Et ensuite, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il a un petit peu changé la disposition de certaines lettres. Et en fait, si vous regardez le clavier aujourd'hui, sur la rangée du milieu, vous avez D, F, G, H, K, L, qui sont les consonnes dans l'ordre de l'alphabet. Le reste, c'est un petit peu dispersé. Alors pourquoi c'est cette configuration qui a emporté le gros lot, si j'ose dire? Parce que il a vendu son entreprise à Remington. Tout le monde connaît la machine à écrire Remington, et elles ont imposé finalement ce standard.
Vous me disiez, Michel Baudouin-Lafont, qu'il y avait une histoire de lettres qui risquaient de s'embrouiller les unes avec les autres, physiquement.
Alors, oui, ça c'est un peu un mystère de l'histoire, parce qu'on ne sait plus très bien si c'est vrai ou non. Mais on se souvient, ceux qui ont utilisé les machines à écrire mécaniques, que parfois les marteaux se coinçaient. Et donc l'idée qui est attribuée aussi à Sholes, c'est d'avoir regardé les fréquences des lettres et des paires de lettres pour les éloigner sur le clavier lorsqu'elles étaient proches régulièrement dans le langage, pour éviter que les marteaux ne se chevauchent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette disposition, lorsque l'on a inventé la dactylographie, taper avec les 10 doigts, c'est avéré être un avantage, puisqu'en ayant des lettres qui sont souvent côte à côte dans les mots séparés sur le clavier, on pouvait taper main droite, main gauche et aller beaucoup plus vite.
Qu'est-ce que c'est, Michel Baudouin-Lafont, l'AFNOR et le BEPO?
Alors, en France, on a un clavier qui est différent de celui qui a été inventé par Sholes, qu'on appelle le clavier QWERTY, et en France, on utilise un clavier AZERTY. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il y a 3-4 lettres qui ont bougé, mais il y a beaucoup d'autres configurations qui ont été testées. L'une qui est reconnue comme étant la plus efficace, c'est un clavier qui s'appelle Dvorak, du nom de son inventeur. Et donc, il a inventé ce clavier avec une disposition un peu différente qui augmentait la vitesse de frappe si on est évidemment entraîné. Mais elle est basée sur la fréquence des lettres en anglais. Et donc, en français, c'est différent. Et donc, en français, l'équivalent, c'est le clavier qui s'appelle BEPO, du nom des quatre premières lettres, toujours de la rangée du haut, qui est un clavier qui est en train d'être standardisé, effectivement, par l'AFNOR.
L'AFNOR, qu'est-ce que c'est?
C'est l'Association française de normalisation.
C'est drôle, il y a des lettres qu'on trouve tout de suite et d'autres lettres qu'on cherche assez souvent. Je ne sais pas à quoi ça tient. Ces petits bateaux sont à réécouter sur franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Kevin Pelot, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou.